Club 15.
On va leur imposer du physique avec ce que le règlement nous autorise.
Sur France Bleu Occitanie, jusqu'à 19h.
Tu vas leur montrer qu'ici on a du cœur.
C'est toute l'actu du rugby.
Est-ce que t'es avec nous ?
Romain Amalric, Sébastien Bretonneau.
On évoque la présidence de la FFR ce soir dans le Club 15.
Ouais, l'élection n'est pas pour tout de suite, ce sera dans un an, en octobre 2020, mais déjà la campagne bat son plein, l'avenir du rugby français est en question. Bernard Laporte va-t-il se représenter ? A-t-il répondu aux attentes des clubs amateurs ? Et qui sont ses rivaux ? On va apporter quelques éléments de réponse avec notre invité. Florian Grill, le président de la Ligue Île-de-France et tête de liste d'opposition face à la gouvernance actuelle. On détaillera et décryptera ensuite toute l'actu rugby, la campagne électorale, le salary cap et le capitaine haché bleu. Ce sera avec le journaliste Philippe Calambrune.
Toute l'actu du top 14, c'est dans...
D'ailleurs, le premier qui gueule, je le fais servir.
C'est dans Club 15, sur France Bleu Occitanie.
Bon, Romain, la campagne bat son plein.
Oui, l'élection de la FFR a lieu dans 11 mois, mais la campagne est déjà bien entamée. Bernard Laporte était à Perpignan en début de semaine. Son principal rival, Florian Grill, est actuellement dans notre région. Bonsoir, Florian Grill.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur France Bleu Occitanie. Vous êtes donc la tête de liste de Oval Ensemble, candidat à la présidence de la fédération. Vous êtes d'ailleurs doublement en campagne, hein, puisque vous êtes actuellement sur le terrain auprès des présidents de clubs amateurs. Vous êtes dans le Tarn-et-Garonne. Ce sont eux, hein, les présidents de clubs qui vont voter dans un an. Alors, vous êtes où exactement et quel est l'objet de ces rencontres, justement ?
On est à Castel-Sarrazin ce soir, à Montauban demain et à Souillac après-demain. On fait 200 jours de campagne et donc il y a 2000 clubs à peu près en France et on envoie à peu près 10 par jour et on fait deux pendant les 200 jours.
Alors, dans
l'objet, c'est de les faire parler. Oui. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire.
Oui, il faut remonter les informations du terrain, c'est un peu ça l'idée, les desiderata, les requêtes des clubs amateurs.
Oui, enfin nous on a déjà imaginé une trame de programme et en fait l'idée c'est de profiter de ces 200 jours pour amender le programme au fur et à mesure en fonction des remontées qu'on a, de tester nos idées, et nous, notre programme définitif, on le sortira à l'été 2020, donc avant les élections, le 3 octobre 2020.
Alors, vous avez déjà un programme qui est plus ou moins établi, puisqu'on voit, si vous avez un site internet, notamment, vous détaillez quand même pas mal de plans d'action pour votre présidence, si toutefois vous êtes élu. Alors, vous avez à vos côtés, d'ailleurs, pas mal de grands noms du rugby. On peut citer Serge Blanco, Jean-Claude Scrella, Fabien Pelousse, Jean-Marc Lhermé. Cette équipe, elle s'est constituée comment ?
Bah écoutez, c'est un groupe de 6 anciens internationaux et 6 inconnus, comme c'est mon cas, qui ont commencé à travailler en janvier. On a fait ce qui ne se fait pas en France d'habitude, c'est-à-dire qu'on a commencé par travailler un projet avant de choisir une tête de liste. Et puis au bout de 6 mois, en juin dernier... Les 12, entre guillemets, m'ont dit, Florian, c'est toi qui dois t'y coller, et donc j'y suis.
Alors pourquoi vous ? Parce qu'on sait, parfois dans le rugby, c'est un peu la vision qu'on a de l'extérieur, c'est parfois aussi un peu le club des copains, le club du copinage, et on se dit que parfois les grands noms ou les grands joueurs ont peut-être un peu plus de poids. Pourquoi vous, à la tête de cette liste ?
Moi je pense que, je suis Bernard Laporte, je suis un inconnu, mais je suis un inconnu au même titre que les 1900 présidents de clubs qui font... tourner le rugby au quotidien, et donc moi ça fait 40 ans que je suis dans le rugby territorial et régional, d'abord comme joueur, puis comme dirigeant, école de rugby, cadet, junior, président de club, président de ligue, donc c'est un sujet que je connais bien et qui me passionne, qui a toujours été mon bénévolat, j'ai jamais vécu du rugby, et je pense que les grands internationaux et les bénévoles de notre groupe de travail ont considéré que je devais être la bonne personne, peut-être plus sur l'expertise que sur la notoriété.
Alors j'ai commencé cette interview en disant que la campagne avait déjà été bien entamée, notamment par le jeu des petites phrases. Vous envoyez quelques petits tacles ou petits plaquages avec Bernard Laporte par presse interposée ou par réunion interposée. Que reprochez-vous concrètement à Bernard Laporte ?
Écoutez, pour moi, il y a deux chiffres qui klaxonnent et qui font mal. Le premier, c'est qu'il y a une baisse des licenciés qui n'est jamais vue dans les écoles de rugby, qui est de l'ordre de 24%, on arrive à un stade où les clubs se délitent, on a du mal, on est obligé de réunir 4, 5, 6 clubs pour faire des ententes sur les cadets et sur les juniors. Donc ça, c'est le premier chiffre, moins 24% dans les écoles de rugby. Et le deuxième, c'est l'augmentation hallucinante des charges salariales à la fédération, puisqu'elles ont été augmentées de 65% en 3 ans. Donc c'est quand même 12 millions d'euros. Donc nous, concrètement, on pense que l'argent pourrait être employé à de bien meilleures choses, et notamment au développement dans le monde scolaire.
Alors récemment, dans un communiqué de presse, vous avez fait savoir que vous étiez un petit peu étonné aussi du résultat financier présenté par le comité directeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ?
Concrètement, la gestion est cataclysmique d'un point de vue financier. L'année dernière, il y a eu une perte en déficit d'exploitation de 6,8 millions et qui est monté à 7,5 millions avec l'exceptionnel qui était défavorable la saison dernière. Cette saison, il y a une perte, encore un déficit d'exploitation. Et quand on est un chef d'entreprise raisonnable, on regarde surtout le déficit d'exploitation qui est d'1,5 million, alors qu'il est remonté avec de l'exceptionnel et qui permet à la fédération de se glorifier en disant qu'il y a 200 000 euros de résultats. Bon, la réalité, c'est qu'il y a deux années de suite, 6,8 millions la première année, 1,5 million la deuxième, de déficit d'exploitation. Et donc, il y a un déficit d'exploitation courant, ce qui est grave. Le deuxième point, c'est qu'on nous parle d'une trésorerie très abondante à la fédération en parlant de 66 millions. Non, il y a 60 millions qui sont l'argent de ce qu'on appelle le fonds d'assurance, c'est-à-dire que c'est de la cotisation payée par les clubs pour en cas de difficulté assurantielle et dans un contexte malheureux qu'on connaît, je pense ça devrait inciter à la prudence. Et donc il reste 6 millions d'euros pour la trésorerie de la Fédé. 6 millions d'euros quand vous avez 26 millions de masse salariale, bah c'est pas exceptionnel. Donc moi je suis assez inquiet de la gestion financière de la Fédé, oui.
Alors, problème de licenciés, problème de gestion financière, comment faire pour résorber ces problèmes ?
Ben, nous, très concrètement, hein, sur les 12 millions d'augmentation de la masse salariale, on en prend 4, donc on dégonfle la masse salariale parce qu'il y a quelques rémunérations qui me paraissent pour le moins indues et quelques postes où on a salarié des gens alors que des bénévoles...
Vous ciblez principalement Serge Simon, notamment dans les différents
oui,
points
bon, de presse. Écoutez, c'est vous qui le mentionnez, mais effectivement, je trouve que sa rémunération...
Je le mentionne parce que vous l'avez déjà mentionné.
Mais je n'ai pas d'état d'âme à le mentionner. Sa rémunération est pour le moins choquante quand on sait ce qui se passe dans les clubs. Enfin, rien que sa rémunération, c'est le budget de plusieurs clubs tout territoriaux. Donc faut quand même le dire. Et puis, on prend 4 millions de ces 12 millions d'euros d'augmentation de la masse salariale et on multiplie par 10 le budget qui est consacré aux scolaires. Parce que, en fait, si on veut relancer le nombre de licenciés, il n'y a qu'une seule solution, c'est vraiment d'agir dans le monde scolaire, de travailler à la fidélisation des licenciés et puis de communiquer. On a communiqué pour changer, la Fédé a consacré son argent à changer le logo de la Fédération Française de Rugby. Pardon, mais c'est une décision hors sol au regard des enjeux du rugby français et de la baisse des licenciés.
Alors, vous êtes donc candidat opposé à Bernard Laporte. Cependant, est-ce que Bernard Laporte est vraiment candidat ? Il a fait savoir en début de semaine qu'il n'était pas sûr encore.
Oui, enfin, je suis candidat, je suis pas opposé à Bernard Laporte, je suis pour un projet pour le rugby. Je vous explique que mon projet principal, c'est d'ailleurs notamment le scolaire. Je note que Bernard Laporte commence à s'y intéresser, mais pendant 3 ans, il a consacré moins de 0,5% du budget de la Fédé au scolaire. Donc là, maintenant, soudainement, il se réveille, mais j'ai envie de dire que le réveil est un peu tard, et un peu tardif. C'est quand même quelque chose à mentionner.
S'il n'est pas candidat, finalement ?
Alors après, il dit qu'il n'est pas candidat. En fait, il a dit sur une chaîne de télévision locale que ça faisait 3 ans qu'il était candidat et qu'il était en candidat en permanence. Là, ils ont fixé les élections... ils veulent nous imposer un code électoral qui démarrerait les élections officielles au 1er avril. Disons-le, parce que c'est cousu de fil blanc. Ça lui permet de faire campagne aux frais de la Fédération Française de Rugby. Et fondamentalement, ça me choque.
Oui.
Parce qu'à compter du 1er avril, il serait obligé, s'il respectait les règles du code électoral, de financer lui-même sa campagne. Je peux vous dire que nous, on finance nous-mêmes nos 200 jours de campagne. Voilà. Et donc, il y a une vraie distorsion de concurrence.
Dans l'actu également, par rapport à cette réunion de Perpignan en début de semaine, Bernard Laporte a annoncé qu'il se disait favorable à la création d'une poule intermédiaire entre la Pro D2 et la Fédérale 1, ce qu'il pourrait appeler une poule nationale. C'est un sujet que vous avez déjà réfléchi dans votre équipe de campagne ?
Oui, alors c'est amusant de constater que dans la dernière ligne droite, Bernard Laporte commence à avoir des idées. Bon, j'espère que c'est un sujet dont il a parlé avec la Ligue, parce que c'est un point essentiel. C'est quand même l'articulation entre la Pro D2 et l'actuelle Fédérale 1.
Oui, parce que je précise rapidement, Florian Grill, la Pro D2 est gérée par la Ligue nationale de rugby. À partir de la Fédérale 1 et toutes les divisions en dessous, c'est la fédération qui gère.
Exactement. Et dans la mesure où, quand Bernard Laporte est arrivé, il a commencé par demander les têtes des dirigeants de la Ligue, Paul Gauze et Emmanuel Échalier, qui sont toujours là, c'est sûr que les relations entre la Ligue et la Fédé sont plus complexes que les apparences. Donc c'est un sujet dont j'espère qu'il a discuté avec la Ligue. Après, oui, il y a une vraie question autour de ça, parce qu'il peut y avoir en Fédérale 1 des équipes de niveaux différents, et il faut, du point de vue de la sécurité des pratiquants, quand on fait jouer des gens avec des écarts de niveau trop importants, ça peut poser question. Après, tout le détail d'une mesure de ce type-là, enfin, le diable est dans les détails. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est de la qualité de l'exécution pour mettre en place une réforme de cette ampleur-là et de cette envergure-là. Et jusqu'ici, la Fédération ne nous a pas toujours frappé par la qualité de la mise en œuvre des réformes.
Dernière question, Florian Grill. Lorsque Bernard Laporte est arrivé à la tête de la fédération, ça a fait un petit séisme aussi au sein du 15 de France et il y a eu très rapidement un changement de sélectionneur. Concrètement, dans un an, si vous êtes président de la fédération, est-ce que ça pourrait bouger au niveau de Fabien Galthié, de Raphaël Ibanez et du staff actuel?
Non, mais écoutez, enfin, nous, on n'est pas notre logique et notre démarche. Et je pense que le rugby a besoin d'apaisement, le rugby a besoin de sérénité. Notre démarche à nous, c'est pas la chasse aux sorcières. Nous, on a un projet qui est le rugby de mouvement, hein, qui est un rugby qui revient à l'ADN du rugby français. Et je pense qu'on pourra parfaitement et sans problème en discuter avec des gens comme Raphaël Ibanez et Fabien Galthié.
Merci beaucoup, Florian Grill, d'avoir été avec nous sur France Bleu Occitanie.
Je vous remercie.
France Bleu Occitanie vous offre vos places pour aller voir le match Stade Toulousain à Aviron Bayonnais. Ce sera le 1er décembre à 16h50 évidemment au stade Ernest Vallon. Alors si vous souhaitez gagner vos places pour aller voir ce match avec les Bayonnais et les Toulousains qui vont s'affronter sur le stade, hein, et ben vous nous appelez tout de suite 05 34 43 31 31.
À vous de jouer. 05 34 43 31 31.
Et le temps de vous accueillir, on fera aussi un point sur vos conditions de circulation. Mais d'abord, une pause musicale avec Lewis Capaldi sur France Bleu Occitanie. I'm going on during the time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your soul till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. To let my guard down, so what you love. Lewis Capaldi sur France Bleu Occitanie. France Bleu.
Sur France Bleu Occitanie, le lundi c'est
rugby.
Romain Ntamack, sacré révélation de la Coupe du Monde du rugby. Il a seulement 20 ans.
Et du mardi au vendredi
aussi.
Je vous ai rêvé au bureau, c'était les N+1, les N+2, les N+3. Maintenant, ce sont les Ntamack.
C'est rugby.
C'est rugby, tous les matins, 8h10, sur France Bleu Occitanie.
Il a marqué 82 points, dont 8 essais. Moi, la seule fois où j'ai eu 82 points, c'est la session ESSO. Hein, j'ai gagné un DVD.
Et en vidéo
sur francebleu.fr.
France Bleu, partenaire de Mask Singer. Le phénomène mondial présenté par Camille Combal sur TF1. des célébrités masquées sous des costumes spectaculaires s'affrontent en chantant les plus grands tubes. L'enquête continue avec les quatre détectives.
Moi, je connais pas cette voix. Moi, la voix, je la connais.
Alessandra Sublet, Angoune, Jarry et Kev Adams. Qui sera démasqué cette semaine?
C'est l'émission où tout est possible.
Mask Singer, vendredi 22 novembre sur TF1 à 21h05 avec France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
France Bleu Occitanie, info, trafic et mobilité en temps réel.
Il y a plusieurs accidents à vous signaler ce soir, notamment un accident sur le périphérique intérieur au niveau de la Sépierre à Toulouse, toujours dans la Haute-Garonne, accident sur l'A66 entre Toulouse et Foix en direction de Nayou, sur l'A64 dans l'Haute-Garonne au sud de Toulouse à la hauteur de Cazères et en direction de Saint-Gaudens, il y a également un accident et puis un accident aussi sur la Nationale 88 en direction de Rodez au niveau de Marsac dans le Tarn.
France Bleu Occitanie, info, trafic et mobilité en temps réel.
On accueille Yvan sur France Bleu Occitanie. Salut Yvan.
Oui, bonsoir.
Yvan, vous êtes à Haute-Rive, dans l'Haute-Garonne?
Tout à fait.
À la maison, en voiture?
En voiture, je cours sur la route dans les bouchons de Toulouse.
Voilà, les bouchons habituels, évidemment. Dites-moi, Yvan, est-ce que vous avez envie d'aller voir le match Stade Toulousain Aviron Bayonnais?
Ah ben, ce serait un grand joueur, effectivement.
Eh ben, bravo à vous, on vous offre deux places avec Romain pour aller voir ce match qui va se jouer le 1er décembre prochain. Un match donc qui aura lieu à Ernest Vallon et donc on veut savoir évidemment, comme c'est la coutume, avec qui vous allez y aller?
C'est très gentil, je vais avec mon épouse.
Eh ben voilà, ça c'est voilà un bon mari, voilà, qui va amener son épouse au match. Bravo à vous et à bientôt, merci. Yvan, merci.
Merci. Merci encore, merci beaucoup, au revoir.
À très vite.
Club 15, Club 15 sur France Bleu Occitanie.
Allez, on décrypte l'actu rugby avec vous Romain et avec votre invité.
Oui, mon invité c'est Philippe Calambrune qui est en ligne avec nous ce soir. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Romain.
Philippe Calambrune, journaliste et enquêteur bien connu dans le monde du rugby. D'abord Philippe, un mot peut-être sur ces élections présidentielles. On va les appeler comme ça dans le monde du rugby, ce sont les élections présidentielles après tout. Même si c'est dans un an, on sent bien cette semaine qu'on est déjà dans le vif du sujet. On vient d'écouter Florian Grill, qui est donc la tête de liste de Oval Ensemble, qui fait part, et notamment et depuis plusieurs semaines déjà, de beaucoup de fautes de gestion. Hein. C'est ça un petit peu les griefs qu'il reproche à Bernard Laporte et son équipe.
Oui, ben, Florian Grill, qui n'est pas un inconnu, contrairement à ce qu'il le disait lui-même, sans doute par
Il est plus connu que par sa mère, on dirait Bernard Laporte.
Il est plus connu que par sa mère, donc c'est quand même un dirigeant, effectivement, qui est dans le rugby depuis un certain nombre d'années. Alors, il est en Île-de-France, peut-être que depuis Toulouse, on voit ça de loin, mais c'est quelqu'un de très actif, qui était déjà, d'ailleurs, dans l'entourage fédéral du temps de Pierre Camus, qui est chef d'entreprise. Enfin, bon, c'est quelqu'un de qui est solide. Voilà, ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Ensuite, effectivement, les angles d'attaque aujourd'hui se focalisent sur les questions de budget parce que bien c'est une réalité. Voilà, il suffit de lire les deux derniers résultats des comptes de la Fédé pour s'apercevoir effectivement que on note des déficits d'exploitation. Alors l'équipe actuelle, assez astucieusement d'ailleurs, hein, tente de maquiller ça soit par des revenus exceptionnels ou bien des dépenses exceptionnelles comme ils l'ont fait l'année dernière. Mais la réalité, ce sont les chiffres et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc il y a un vrai soucis de gestion aujourd'hui à la Fédération française de rugby.
Philippe, on se souvient qu'il y a 4 ans, Bernard Laporte avait été élu aussi par la base parce qu'il avait convaincu les clubs amateurs, les présidents de clubs amateurs. Il avait d'ailleurs plutôt présenté un projet en faveur des clubs amateurs. 4 ans après, en tout cas 3 ans après, qu'en est-il? Et est-ce qu'il a toujours la faveur justement des clubs amateurs, Bernard Laporte, aujourd'hui sur le terrain?
Je crois qu'il a été élu au terme d'une campagne que je qualifierais de brillante, hein, puisqu'il a vraiment mené une campagne politique, une campagne de terrain, avec des moyens déployés sans précédent probablement dans le rugby. Et donc il a gagné haut la main et il n'y a rien à dire là-dessus. Il avait fondé son programme sur une série de 44 promesses, dont qu'il se targue aujourd'hui d'avoir à peu près tenu. Bon, on n'a pas le temps évidemment de développer, mais c'est loin d'être le cas. Et je crois qu'aujourd'hui, quand même, un certain nombre de clubs, pour ne pas dire une grande partie des clubs, revient un petit peu de cet état de grâce qui a pu être celui de Laporte pendant les deux premières années de son mandat. Et puis, ben, se rend compte que les promesses qui sont les promesses tenues, ben, sont pas forcément suivies d'effets. Voilà. Je ne dis pas que tout ce qu'a fait Bernard Laporte est à jeter. Hein, c'est pas du tout le propos. Mais entre les 44 promesses et les résultats qui sont montrés aujourd'hui, il y a quand même un gros écart. Et je pense que on est parti là pour une année de campagne et que l'élection sera loin d'être gagnée pour lui comme elle a pu l'être il y a 4 ans.
Alors vous parliez, Philippe, d'une campagne brillante il y a 4 ans, enfin il y a 3 ans désormais,
oui.
Il y a 4 ans pour si on compte la campagne. Moi je me souviens d'une campagne incisive aussi où il y a eu pas mal de phrases au choc. On a l'impression quand même qu'on est déjà depuis longtemps rentré dans ce mode de communication aussi entre les deux équipes candidates à la présidence de la fédération. Est-ce que ça ne peut pas nuire aussi à la bonne ambiance, si tant est qu'il y ait une bonne ambiance, du rugby français ?
Ouais, je suis pas trop d'accord avec vous, Romain, parce que autant effectivement Laporte avait été assez agressif, assez hargneux, voire parfois en usant de méthodes un peu limites à l'encontre de Pierre Camus, qui lui était qui dormait, hein, oui. Bon, il était absolument inactif, il se refusait d'ailleurs à répondre aux attaques, hein. Pierre Camus, c'était sa ligne de conduite, il n'a jamais voulu répondre aux attaques parce que, disait-il, ça nuirait justement au rugby, et donc il avait choisi cette stratégie de défense, et on sait que ça l'a complètement desservi, puisque bon, aujourd'hui, alors certes, il y a quelques petites phrases qui commencent à voler, mais moi j'ai plutôt l'impression, en tout cas pour ce qui est de la liste d'opposition, qu'elle cherche à s'appuyer sur des éléments tangibles, des éléments concrets, avec des arguments qui sont des arguments tangibles. Voilà. Et au contraire, il me semble que le débat aujourd'hui s'engage plutôt sur une bonne voie.
Une campagne sur le fond plutôt que sur la forme.
Une campagne sur le fond. Alors, ce qui suppose évidemment des échanges un peu techniques, qui sont parfois peut-être un peu durs à suivre quand on observe les choses de loin, mais qui me semble être de qualité pour l'instant, en tout cas.
On reviendra évidemment de toute façon sur cette campagne parce que ça va nous prendre toute l'année 2019.
J'ai l'impression qu'il y a autant de coups bas que dans la vie politique en général.
C'est
incroyable.
Je vous ai dit de toute façon, Sébastien, que c'était de la politique. On y reviendra évidemment sur France Bleu Occitanie. Juste un mot sur une autre actualité, Philippe. Je profite de votre expertise aussi rugbystique pour évoquer ce dossier dans le journal L'Équipe ce matin. On cherche un capitaine évidemment pour l'équipe de France. Alors la semaine dernière à Montgesti, Fabien Galthié n'a pas dévoilé de nom. Il a remis la décision à plus tard, mais on se pose la question qui va succéder à Guillaume Guirado. On a déjà, dans de nombreux médias, on suppute un petit peu le nom du futur taulier. Pas mal de Toulousains d'ailleurs dans les possibles. Et pour les internautes donc du site de l'équipe, c'est Antoine Dupont qui a été publicité devant le troisième ligne toulonnais Charles Olivon, le pilier gauche bordelais Jefferson Poirot. On évoque même Julien Marchand, François Cross, ça c'est pour les Toulousains. Est-ce que vous avez un avis là-dessus d'ailleurs, Philippe ?
Je pense que c'est une question difficile aujourd'hui parce que, bon, certes, Fabien Galthié, Laurent Labitte aussi étaient à la Coupe du Monde et donc on commençait à pouvoir cerner un petit peu le profil des joueurs susceptibles de les intéresser. Être capitaine de l'équipe de France, c'est une fonction aujourd'hui qui est devenue très importante, qui dépasse largement le cadre du terrain, hein, puisque il faut répondre aussi au nom de la sélection. On a vu combien, d'ailleurs, ça avait été dur hein,
pour Guillaume Guirado, bien sûr.
Oui, qui a été le capitaine un peu des années noires. Quoi. Voilà, bon, il a dû assumer un certain nombre de choses qui n'étaient pas d'ailleurs toujours de son fait. Pour ce qui est de l'avenir, je ne sais pas si les choses sont vraiment déterminées encore aujourd'hui. Je ne le pense pas. Je crois que le nouveau staff a besoin de réfléchir à la question, peut-être aussi de s'appuyer sur les entraîneurs de club qui sont ceux qui connaissent le mieux les joueurs. Ben, le choix qui sera fait sera de toute façon intéressant parce que soit on fera appel à un joueur qui était déjà là, comme par exemple Jefferson Poirot qui a aussi assumé la fonction
qui a déjà été capitaine, bien sûr.
Par le passé, soit on, dans une volonté peut-être aussi de tourner la page et de vraiment fixer le cap sur la Coupe du Monde 2023, on choisira peut-être un joueur un peu plus inattendu, un peu plus jeune, qui symbolisera aussi le renouvellement des générations. Et dans ce cadre-là,
on verra ça.
dans ce cadre-là.
Je suis obligé de vous couper, Philippe, parce qu'on n'a plus le temps, mais je vous inviterai dans une autre émission sans problème. Merci beaucoup, Philippe Alain Brune. On vous retrouve évidemment votre plume sur le journal Le JDD.
Merci, à demain, Romain. Arnold Derek, on vous retrouve après 19h. Quel est le sommaire de ce soir?
Vous allez faire une découverte, ou plutôt une redécouverte.